around each other. And shall you be my new romance? With a clear understanding that this kind of thing can happen. Shall we dance? Shall we dance? Cassandra Wilson, Shall We Dance, est une chanteuse nord-américaine noire qui a, semble-t-il, fait de très nouveaux beaux disques. Celui-ci est plutôt ancien, 1988. Nous sommes toujours en compagnie d'Evelyne Merlard de la librairie des femmes L'Inédite à Genève et nous parlons du travail de l'écrivaine nord-américaine noire Toni Morrison. À propos de Playing the Dark, donc critique, essai de critique littéraire qu'elle a mené lors de, qu'elle a transcrit en quelque sorte de trois conférences importantes qu'elle avait données, tu avais encore quelque chose à ajouter, Evelyne?
Oui, parce que Toni Morrison se pose une autre question dans ses, dans une de ses conférences. Elle va donc encore plus loin, si on peut dire, dans son idée. On avait vu, pour reprendre le fil, que il y a une sorte de savoir, entre guillemets, qui tient pour établi aux États-Unis, donc que la présence des Africains d'abord et puis des Afro-Américains ensuite n'a eu aucune place ni de conséquences significatives dans l'origine et dans le développement de la littérature nord-américaine. Et Toni Morrison se demande si les caractéristiques majeures de cette littérature et qu'on glorifie, comme par exemple l'individualisme, cette exaltation de la liberté de l'homme, la masculinité, hein, l'engagement social par rapport à l'isolement historique, une problématique morale aiguë et ambiguë, qui est souvent aussi dans les romans, la thématique de l'innocence, qui est associée souvent à une obsession des images de la mort et de l'enfer, qu'on se rappelle tous les prédicateurs nord-américains. Elle se demande si toutes ces caractéristiques ne sont pas en fait simplement des réactions à cette présence obscure, constante, de cette population noire, donc importée d'Afrique aux États-Unis. Donc, elle va assez loin. Elle dit quelque part que tout ce qui tient lieu de caractère national, entre guillemets, tout ça, aux États-Unis aujourd'hui, en fait, n'est que le résultat de la confrontation de cette population blanche avec le système esclaviste qu'elle avait mis en place. Et ça, c'est quand même important de savoir, et c'est quand même important qu'il y ait des recherches là-dessus. Alors, on espère qu'elles vont se faire.
Ah oui, en tout cas, elle doit soulever là un sujet culturel, d'identité du pays qui doit émouvoir plus d'une personne ou une autre. Oui. Parce que
tu es d'accord que c'est quand même curieux qu'un pays qui fait tellement l'apologie de la liberté, la statue de la liberté, tout le monde la connaît, est quand même un pays qui a maintenu privé de liberté une population importante pendant près de 4 siècles. Alors, c'est quand même curieux.
Je crois que cette contradiction...
Il faut tellement insister sur la liberté. C'est peut-être parce qu'on prive tellement les autres de liberté qu'on doit le faire.
Mais je crois que...
En tout cas, là, il y a des pistes à
la question creuser. Se pose encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui sur le rôle des États-Unis, oui. Aujourd'hui dans le monde. Ça
et
s'arrête
les luttes
pas avec...
qu'il a fallu pour abolir cette situation.
Tout à fait. Alors, tu avais envie maintenant de faire le cheminement depuis l'analyse littéraire, peut-être de l'œuvre des autres, qu'a fait Toni Morrison, à sa propre écriture, et entre autres en utilisant le roman pour lequel elle avait reçu le prix Pulitzer, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc Beloved, bien-aimé, on traduit en français ?
Oui. Oui, et parce qu'on avait dit qu'il existe donc un présupposé qui dirait quelque chose comme ceci. Les mères esclaves ne sont pas des vraies mères. On pourrait dire qu'elles sont natalement mortes, qu'elles n'ont pas d'obligation envers leur descendance ou leurs propres parents. Alors, ça c'est le présupposé, et on a vu comment dans le roman de Willy Carter, ce présupposé était à l'œuvre. Alors justement, Toni Morrison a écrit un livre sur l'esclavage et sur l'amour d'une mère esclave pour ses enfants. Et j'étais évidemment curieuse de savoir comment elle allait parler de ce problème. Donc, c'est donc le roman intitulé Beloved, qu'on a gardé, auquel on a gardé aussi son titre anglais en français, Bien-aimé. C'est d'abord ce mot, Beloved, une inscription qui est sur une pierre tombale d'un enfant qui est mort avant même d'atteindre l'âge d'une année et tué justement par sa mère, esclave, qui venait de s'enfuir et qui venait de sauver ses enfants de l'esclavage et qui, devant l'arrivée ou le retour du maître pour les remettre tous en esclavage, préfère tuer. Elle essaye de tuer tous ses enfants d'ailleurs, mais elle n'arrive qu'à tuer le bébé. Donc c'est une mère qui tue son enfant plutôt que de l'avoir, c'est une fille, plutôt que de l'avoir retombée dans le statut d'esclave. Et alors, donc elle a inscrit elle n'a pas inscrit le nom de son vrai nom de sa fille sur la pierre tombale. Elle n'a inscrit que Beloved parce que elle adorait en fait cet enfant. Et l'enfant est obligé de, au fond, de, pour bien marquer son importance, qu'on a nié puisqu'on a, on lui a enlevé sa vie comme ça tout de suite, de revenir hanter la maison de sa mère. Alors, elle est un fantôme, comme nous dit-on dans le livre, presque toutes les maisons, les maisons du sud des États-Unis, puisque partout il y a eu des meurtres d'esclaves, ou des suicides, ou des meurtres, ou etc., d'esclaves. Alors, les maisons sont pleines de fantômes, parce que tous ces gens-là ne sont pas bien morts, alors ils reviennent. Et bon, la maison de l'héroïne est une de celles-là, puisqu'elle est habitée par le fantôme de sa fille. Puis tout l'ouvrage va nous raconter petit à petit comment tout ça s'est passé, va raconter toute l'histoire de la mère, et puis jusqu'à sa rédemption à la fin, elle arrivera quand même à faire la paix, disons, avec sa conscience, parce que sa conscience la tourmente quand même. Elle arrivera à faire la paix avec ce fantôme et à s'en délivrer tout à la fin. Il y avait des tas de jolies choses dans ce livre que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est le sujet est tragique et chaque fois qu'on parle de cette folie qu'a été l'esclavage, il y a des aspects très dramatiques de ce qu'on lit. Mais en même temps, on trouve une foule d'informations intéressantes sur la vie des esclaves à l'époque, et pour une fois, vue par une descendante d'esclaves. Donc, ça a été un livre dans lequel j'ai eu de la peine à me mettre au début, parce que tout de suite, on est confronté aux fantômes, alors c'est un petit peu dérangeant. mais je dois dire, on s'habitue très bien à sa présence. Et plus j'entrais dans le livre, et plus j'étais intéressée et vraiment mordue par le sujet. Un petit clin d'œil pour sortir du sérieux un petit peu de la conversation ici. Je me rappelle maintenant de l'expression que les Noirs de l'époque utilisaient pour dénominer les gens du Ku Klux Klan. Elle les appelait des draps fantômes qui parlent, que j'ai trouvé assez joli. Mm-hmm. Donc, c'est donc un livre sur l'esclavage. Et c'est un livre aussi qui se passe à l'époque de la fin de la guerre de sécession. Donc, c'est une époque limite aussi, puisque là, il y a quand même un changement de situation pour les Noirs du Sud, bien que la fin de la guerre de sécession n'ait pas mis fin à l'esclavage immédiatement. Il a fallu beaucoup de temps, et puis il y a eu beaucoup de situations de discrimination qui ont continué quand même dans le Sud après. Tout ça est très bien décrit. On décrit aussi la manière dont vivaient les esclaves disons avec de bons maîtres et avec de mauvais maîtres, parce qu'il y avait évidemment des maîtres plus ou moins bons. C'était quand même des maîtres, mais et l'héroïne du livre a la chance d'avoir été en fait d'avoir passé la grande partie de sa vie dans une de ces plantations où le maître était bon et où le maître ne traitait pas ses esclaves en sous-hommes, mais en vrais hommes. Évidemment, seulement sur sa plantation. Dès qu'il sortait de sa plantation, il redevenait des sous-hommes. Si nous avons encore le temps, j'aimerais bien lire un petit passage, même deux petits passages. Le premier, et c'est un, se réfère à une exhortation que fait la belle-mère de l'héroïne. La belle-mère de l'héroïne, c'est-à-dire la mère de son mari, est une femme qui était esclave et qui a été libérée, émancipée, grâce au travail en heures supplémentaires de son fils. Il a travaillé pendant 5 ans en heures supplémentaires, grâce à la bonté de son maître, qu'il a laissé faire des heures supplémentaires. Il les lui a payées, et donc elle a pu être rachetée. Et vers l'âge de 70 ans, elle a pu aller vivre dans un village en tant que femme libre. Et là, elle est devenue une sorte de prêtresse, et elle réunit les anciens esclaves dans la forêt, quelquefois le dimanche. Elle anime une sorte d'église à elle toute seule. Et j'aimerais vous lire un petit passage où vous voyez un peu comment elle les exhorte à s'aimer, ces Noirs, que les maîtres méprisent tellement.
It almost makes the day begin.
Ici, disait-elle, là où nous résidons, nous sommes chers. Chers qui pleurent et rient. Chers qui dansent pieds nus sur l'herbe. Aimez tout cela. Aimez-le fort. Là-bas, dans le pays, ils n'aiment pas votre chair. Ils la méprisent. Ils n'aiment pas vos yeux. Ils préféreraient vous les arracher. Pas plus qu'ils n'aiment la peau de votre dos. Là-bas, ils la fouettent. Et, ô mon peuple, ils n'aiment pas vos mains. Ils ne font que s'en servir, les lier, les enchaîner, les couper et les laisser vides. Aimez vos mains, aimez-les. Levez-les bien haut et baisez-les. Touchez-en les autres, frottez-les l'une contre l'autre. Caressez-vous-en le visage, parce qu'ils n'aiment pas cela non plus. C'est vous qui devez aimer tout cela, vous. Et non, ils n'aiment aucunement votre bouche. Là-bas, dans la contrée, ils veilleront à ce qu'elle soit brisée et rebrisée. Les mots qui en sortent, ils n'y prêteront pas attention. Les cris qui en sortent, ils ne les entendront pas. Ce que vous y mettrez pour nourrir votre corps, ils vous l'arracheront et à la place vous laisseront des déchets. Non, ils n'aiment pas votre bouche. Vous devez l'aimer. C'est de chair que je vous parle, d'une chair qui a besoin d'être aimée, de pieds qui ont besoin de se reposer et de danser, de dos qui doivent être soutenus, d'épaules qui ont besoin de bras forts, je vous le dis. Et, ô mon peuple, là-bas, entendez-moi, ils n'aiment pas votre cou dressé bien droit et sans licol. Alors aimez votre cou, posez la main dessus, honorez-le, caressez-le et tenez-le droit. Et toutes vos parties intérieures qu'il donnerait volontiers en pâté au cochon, vous devez les aimer. Le foie, sombre et foncé, aimez-le, aimez-le. Et le cœur qui bat et bat, aimez-le aussi. Davantage que les yeux et les pieds, plus que les poumons qui doivent continuer à respirer de l'air libre. Plus que votre matrice qui abrite la vie et vos parties privées qui donnent la vie. Écoutez-moi bien, aimez votre cœur, car c'est votre trésor.
Alors Evelyne, quand tu as lu, par exemple, ce texte est d'une force incroyable, donc il est sûr que quand tu as lu le livre de Toni Morrison, Beloved, tu as vu qu'elle parlait de l'esclavage vraiment d'une façon différente que l'autre livre dont tu nous as parlé tout à l'heure. Tu as l'impression que sa critique à la littérature américaine, elle en tient compte, elle, quand elle écrit. C'est une autre histoire. Ou bien...
Oui, et de toute façon, elle écrit en tant que noire et elle a un autre passé derrière elle et elle a toute l'expérience que lui ont transmis ses ancêtres. Donc elle a entendu dans sa famille d'autres histoires, un autre son de cloche et puis elle sait que l'esclavage vu de l'intérieur par les esclaves ou les descendants d'esclaves, c'est autre chose bien sûr et ça se voit. Donc, on pourrait encore lire un tout petit passage. Ou alors, l'auteur parle d'autre chose. Elle parle de... Est-ce possible des esclaves qui sont prisonniers? Donc ils ne sont pas seulement esclaves, mais ils sont enchaînés, prisonniers, parce qu'ils ont essayé, de, par exemple, de tuer un maître ou essayer de s'enfuir. Donc ils sont doublement prisonniers. Alors, elle parle d'un petit groupe qui a été enchaîné. Ils sont 46 et ils sont enfermés dans un fossé pendant la nuit. Ils restent comme ça en prison un certain nombre de mois ou d'années, ça dépend les cas. Et donc, ils sont tous enchaînés les uns aux autres, 46 personnes. Et puis, dans la journée, on les entraîne dans les bois pour tailler les arbres. Et alors, elle raconte comment, pendant leur travail, toujours enchaînés évidemment, ils chantent, et ils chantent en déguisant un peu leurs paroles pour au fond cracher toute la violence qu'ils ont en eux, parce que, étant esclaves, et en plus, enchaînés comme ils le sont, comme des bêtes, ou je sais même pas des bêtes, je sais pas comment dire même, ils ont en eux évidemment une grande violence, et il faut quand même qu'ils survivent, alors comment ils le font? C'est un petit passage qui parle de ça. Enchaînés, ils dansèrent par les champs et les bois jusqu'à une piste qui se terminait dans la beauté surprenante du Feldpass. Et là, les mains de Paul D désobéirent au tourbillon furieux de son sang et devinrent attentives. Massette en main, sous la conduite du Hi, les hommes abattaient leurs tâches. Ils chantaient à pleine gorge et cognaient à plein bras, en avalant à moitié les paroles pour qu'on ne puisse les comprendre, en truquant les mots pour que leurs syllabes prennent des significations différentes. Ils chantaient les femmes qu'ils avaient connues, les enfants qu'ils avaient tétés, les animaux qu'ils avaient domptés eux-mêmes ou qu'ils avaient vus d'autres dompter. Ils chantaient les patrons et les maîtres et les maîtresses, les mulets et les chiens, et l'impudence de la vie. Ils chantaient avec amour les cimetières et les sœurs disparues depuis longtemps, la viande de porc dans la forêt, la nourriture dans la casserole, le poisson au bout de la ligne, la canne à sucre, la pluie et les fauteuils à bascule. Et ils chantaient en rythme, les femmes pour les avoir connues et puis fini, les enfants pour en avoir été, ce qui ne serait jamais plus. Ils tuaient le patron si souvent et si radicalement qu'il leur fallait bien le ramener à la vie pour les triper encore une fois. Avec en bouche le goût de la galette chaude parmi les sapins, ils tapaient et cognaient à plus soif. Ils chantaient des chansons d'amour à Madame la Mort et lui écrasaient la tête. Plus que le reste, ils tuaient l'allumeuse que les gens appellent vie pour les avoir dupés, pour leur avoir fait croire que le prochain lever de soleil en vaudrait la peine, qu'un bout de temps de vie en plus changerait tout, enfin. Morte la vie, c'est alors seulement qu'ils seraient saufs. Les chanceux, ceux qui avaient vécu là assez d'années pour avoir estropié, mutilé et peut-être même enterré leur vie, avaient l'œil sur les autres, qui subissaient encore son étreinte aguichante, tout occupés à se soucier et à penser à l'avenir, à se souvenir et à rêver au passé. C'était ceux dont les yeux disaient « Aide-moi, ça va mal » ou « Attention », voulant dire « C'est peut-être aujourd'hui que je vais aboyer ou manger mes propres saletés ou me sauver ». Et c'était de cette dernière éventualité qu'il fallait se garder. Parce que si l'un d'eux décampait, tous, les 46 d'un coup, seraient entraînés par la chaîne qui les liait et impossible de dire qui ni combien seraient tués. Un homme pouvait risquer sa vie, mais pas celle de son frère. C'est pourquoi les yeux disaient « Du calme et reste près de moi ».
C'était deux extraits du roman écrit par Toni Morrison, Beloved. Nous aurions pu vous parler du tout dernier roman de Toni Morrison, Jazz, écrit en 1992. Mais je crois qu'on vous laisse la surprise de le découvrir. Je l'ai lu, moi, pour cette émission-là. J'étais très surprise, Jazz. Pourquoi Jazz? Ça ne parle pas de musique du tout. Mais on peut peut-être apparenter l'écriture de Jazz à un morceau de jazz, à savoir qu'on part d'un couple L'homme assassine sa jeune maîtresse et sa femme, en proie au désespoir et à la jalousie, va essayer de s'attaquer à sa rivale une dernière fois, en but de la tuer presque une deuxième fois au cimetière le jour où elle va être inhumée. Et à partir de cet événement horrible, de ce geste de violence très dur, eh bien, on va re-suivre le parcours de chacun des deux, le croisement de tous ces personnages ensuite à la toute fin. Donc comme si on commençait par le morceau de base, il y a les improvisations de chaque personnage et puis il y a le chorus final où tout le monde se retrouve. Alors Evelyne, je crois qu'on peut simplement dire à nos auditrices que bien sûr tous les livres de Toni Morrison, on les trouve à la librairie L'Inédite.
En tout cas, quelques-uns, et on commande ceux qui intéresseront les lectrices. Il y a en tout cas celui-là, il y a Beloved, il y a Playing in the Dark. Et puis, on est prête de toute façon à commander ce qui fera plaisir.
Alors, tu avais envie, Evelyne, de nous parler encore d'un autre livre écrit par une écrivaine jamaïcaine, Mary C. Cole, c'est comme ça que ça se prononce ?
Pas vraiment une écrivaine, parce que c'est le seul ouvrage peut-être qu'elle a écrit, mais sont ses mémoires sur 5 années de vie, d'une grande aventure qu'elle a vécue. Oui, une jamaïcaine, je suis une mâle blanchie. Une Jamaïcaine, citoyenne anglaise, qui découvre un beau jour en Angleterre qu'elle est une mâle blanchie, donc elle n'est pas égale à n'importe quel citoyen anglais, et qui s'en va comme infirmière aider les soldats français et britanniques à la guerre de Crimée. Oui, c'est un livre très intéressant, mais on aura l'occasion d'en parler un autre jour.
Peut-être avec d'autres aventurières, d'autres femmes noires encore, dans une prochaine émission de l'Inédite, librairie des femmes à Genève, rue du Cardinal Mermillot, ouvert tous les jours, prête à vous accueillir et à vous donner plein de conseils, et à vous faire remplir une carte de fidèles acheteuses dans la librairie. Merci beaucoup Evelyne d'être venue aujourd'hui.
Merci à toi de nous avoir accueillis.
c'est Cassandra Wilson qui a accompagné notre découverte de Toni Morrison, présentée par Evelyne Merlard de la librairie L'Inédit, librairie des femmes à Genève. Et bien, pour terminer, faire une sorte de break avant de partir aux nouvelles d'une autre femme noire américaine, et bien, je vous propose de réécouter Black Woman de Jody Mowat, qui, elle, fait du reggae.
My song.